votre invitation. Bonjour à tous. Alors, même si ça ne rentre pas forcément complètement dans le sujet, l'idée de ce topo est simplement de sensibiliser mes collègues ou certains d'entre vous au fait que les patients que l'on croise en milieu psychiatrique sont très certainement une population qui a des conduites à risque majeures, et que pour nous, psychiatres, s'intéresser déjà à ces patients dans leur problématique addictive et hépatique, c'est sans doute faciliter à terme les collaborations entre les hépatologues et les psychiatres. Et en tout cas, sensibiliser les psychiatres et la psychiatrie à cette problématique. Donc l'idée est de clairement montrer, sur deux expériences, d'évaluation des pratiques professionnelles, chacun sait maintenant ce que ça peut vouloir dire, l'importance que peuvent avoir les problématiques addictives et hépatites en milieu psychiatrique. On a au moins quatre bonnes raisons de s'intéresser à ça. D'abord, la prévalence des hépatites est beaucoup plus importante en milieu psychiatrique. Très clairement, on vous le montrera, il y a un bénéfice de l'hépatite C chez les patients, des traitements d'hépatite C chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Que les troubles psychiques liés au virus de l'hépatite C et à son traitement, que ce soit la bithérapie ou même la trithérapie, puisque certains médicaments, certaines antiprotéases ont pas des contre-indications, mais des choses à surveiller en termes d'interactions médicamenteuses, notamment au niveau de certains antidépresseurs et des traitements substitution aux opiacés. Et qu'on sait aussi, comme on a pu le démontrer dans des travaux en commun, que le non-partenariat avec la psychiatrie est à l'origine d'un certain nombre de non-accès aux soins et de ruptures de soins tout à fait préjudiciables et qui est une réelle perte de chance. Plus on a une comorbidité psychiatrique, plus on a une comorbidité addictive, plus on a de conduites à risque vis-à-vis des produits ou dans sa sexualité. La prévalence en milieu psychiatrique de l'hépatite C tourne autour de 6 à 7%, quelle que soit la population, et peut toucher 10 à 12% de la population si on se limite à des diagnostics de schizophrénie ou de troubles bipolaires de l'humeur. Il y a une seule étude française qui a fait une étude épidémiologique qui date déjà d'une bien 12 ans, qui montrait 6% d'anticorps VHC+, 25% de contact avec le VHB, 2% d'hépatite B chronique, et surtout, seuls 14% de la population psychiatrique vaccinée pour une hépatite B. Donc, en sachant que c'est un réservoir à la transmission non négligeable, puisque les patients psychiatriques ont cette énorme compétence que certains d'entre nous n'ont peut-être pas ou ont, c'est la capacité à avoir des rapports sexuels avec des gens qu'ils ne connaissaient pas il y a moins de 24 heures. Vous mettez un certain nombre de patients dans une unité psychiatrique qui soit schizophrène, bipolaire ou autre, ils ont une capacité à se rencontrer et à faire l'amour de manière non préservée extrêmement étonnante. Mais ce n'est pas réservé à la population psychiatrique. Hein. On a fait une évaluation des pratiques professionnelles. On est parti du service hospitalier du centre hospitalier où je travaille, où il y a trois services de psychiatrie adulte, trois fameux secteurs de psychiatrie. Ça représente à peu près, 200 lits et 120 lits d'hôpitaux de jour. Et on a décidé, dans le cadre d'un travail de PP et de thèse, de demander à un étudiant, un interne en psychiatrie, de dire, écoute, un jour J, dans tous les hôpitaux de jour, dans tous les services hospitaliers, on fait une évaluation de tous les patients en ce qui concerne leurs conduites à risque, leur connaissance de la sérologie hépatite C, leur connaissance de la vaccination VHB, et derrière, s'ils le veulent, on fait un dépistage et on leur demande s'ils veulent être vaccinés. Étonnamment, 80% de la population a répondu positivement le jour J, hein, ce qui représente quand même pratiquement 237 patients vus et évalués. Classique, des populations essentiellement de troubles graves de la personnalité, de schizophrénie, de troubles de l'humeur, de troubles névrotiques. On peut déjà dire que pratiquement 3 patients sur 4 a au moins un facteur à risque de transmission d'hépatite, ce qui est énorme. Hein, que ce soit sur l'usage de vie entière de substances psychoactives, qu'elles soient en IV ou nasale, que ce soit dans les rapports non protégés, comme je vous l'ai dit, que ce soit du piercing, du tatouage, dans le cadre d'avoir une CMU, d'avoir été incarcéré, d'avoir un proche atteint. Donc on peut dire que 3 patients sur 4 rentrant dans un système de soins psychiatriques est susceptible d'avoir eu une conduite à risque. La question qui peut se poser derrière, c'est est-ce que le dépistage, de la même façon que le VIH, doit être proposé systématiquement ? Étonnamment, la prévalence de l'hépatite C était moindre que celle qu'on l'attendait. Cela dit, elle était quand même 4 fois plus de la population générale, puisqu'on était près de 3%. En ce qui concerne l'hépatite B, les choses étaient stables. Il n'y avait pas forcément de VIH. En tout cas, était équivalente entre population générale pour l'hépatite B. On trouvait 31% de couverture vaccinale le jour J, ce qui est pas mal, mais qui reste insuffisant. Ce qui était plus inquiétant, c'est que c'était pratiquement la moitié des patients VHC+ n'étaient pas vaccinés pour l'hépatite B, et que 44% des usagers de SPA, IV et SNIF actuels n'étaient pas vaccinés non plus. Donc vous voyez qu'en termes de santé publique, nous avons, nous, psychiatres, dans ces moments-là et dans ces situations, dans nos pratiques du quotidien, un rôle à jouer dans des parcours de vie et dans des parcours de soins. Donc la question a été de systématiser l'évaluation des conduites à risque addictives lors de nos entretiens d'admission, de systématiser la proposition d'un dépistage des hépatites et des IST en lien avec celle du VIH, d'évaluer l'état vaccinal VHB de manière systématique ou systématisée dans nos bilans d'admission, de systématiser la proposition de la vaccination et d'évaluer ça dans le cadre d'une évaluation des pratiques professionnelles élargie à la pertinence de la réalisation de nos bilans d'admission. Voilà un exemple de ce qui se passe en 2011 dans les hôpitaux psychiatriques et éventuellement dans un hôpital sensibilisé. Donc ça, c'est en gros une soixantaine de dossiers tirés au sort, quels que soient les secteurs, sur des patients admis depuis moins de 6 mois en hôpital psychiatrique. On reprend tout ce qui a été fait à l'admission et on évalue. Est-ce qu'il y a eu un examen exhaustif somatique notifié dans le dossier ? 41% oui. Est-ce qu'il y a eu la prescription d'un bilan biologique ? 87% oui. Est-ce qu'il y a la présence de l'IMC ? 62% oui. Est-ce qu'il y a la présence d'un ECG ? 44% oui. Est-ce que la douleur est évaluée ? 58% oui. Est-ce que les conduites à risque sexuelles et d'usage de substances psychoactives est évalué ? 59% oui. Est-ce que le dépistage du VIH est proposé systématiquement ? 21% oui. Est-ce qu'une proposition de dépistage d'IST est proposée systématiquement ? 24% oui. Donc en 2011, dans un centre hospitalier psychiatrique, voilà ce qui se passe. Et je ne pense pas qu'on soit exemplaire et je ne pense pas qu'on soit unique. Il y a de quoi faire. Sachant qu'on a fait un deuxième tour après avoir fait des actions de communication, les 6 premiers items sont montés en flèche, les deuxièmes n'ont pas bougé. Donc il y a véritablement une réflexion à avoir pour les psychiatres à intégrer la dimension addicto et la dimension conduite à risque dans leur pratique. Autre expérience, vous avez l'expérience là d'un hôpital psychiatrique avec des patients qui arrivent dans le cadre des systèmes classiques. Mon pôle est également responsable de ce qu'on appelle une maison relais psychiatrique. Une maison relais psychiatrique de 25 logements en milieu urbain, dans la ville où se trouve l'hôpital, hein, où sont admis des usagers, parce que ce ne sont plus des patients, hein, ce sont des résidents souffrant de handicap psychique et étant en situation de précarité sociale, orientés par une sorte de plateforme précarité de la région, pour des patients qui sont accompagnés par des équipes de secteur de psychiatrie et pour lesquels un lieu de résidence définitif ou temporaire est nécessaire dans une situation de précarité. Cette résidence s'articule bien sûr avec une unité spécifique de psychose chronique et de réhabilitation psychosociale, avec des appartements associatifs qu'on a la chance d'avoir, et puis une sorte de 2-3 appartements d'évaluation qu'on a appelé la nouvelle antenne d'aide à la sortie et à l'autonomisation parce que ça faisait NASA, une sorte de rampe de lancement comme ça, qui rentre dans une filière au sein de mon pôle. Et la question a été, chez les patients, chez les résidents qui ont été admis dans cette structure depuis l'ouverture, quel était l'état de leur évaluation des conduites addictives et l'état de leur vaccination VHB, leur connaissance et la situation des hépatites chez ces patients qui débarquent. 27 résidents sont passés depuis l'ouverture, hein, 21 schizophrénies, 2 patients souffrant de troubles bipolaires, 4 troubles graves de la personnalité. Seuls 3 usagers lors de l'admission avaient déjà eu un suivi spécifique addictologique en complément de leurs soins psychiatriques. C'est déjà pas énorme. Les conduites addictives, je fais vite, le tabac, 85% de fumeurs, dont 60% avec une dépendance moyenne et forte. Une faible connaissance des impacts psychiques et psychotropes, et 65% souhaitent diminuer ou arrêter. Il faut juste effectivement leur dire que fumer, ça augmente le risque suicidaire, et que fumer bouffe leurs médicaments, et que s'ils veulent baisser leur traitement et leurs médicaments, un des premiers réflexes, c'est juste de baisser leur consommation de tabagique, parce qu'ils vont avoir 30% de médicaments en plus dans le sang, et à ce moment-là, on descend les médicaments. Et quand on leur explique ça, soudainement, il y a un levier qui se fait où on peut diminuer la posologie des médicaments psychotropes. Alcool, 44% avaient un usage simple, 23% dans la boutique ont des usages nocifs ou en état de dépendance. Ils ont bien sûr une faible connaissance des impacts psychiques et cognitifs de l'alcool, et 40% ont diminué ou arrêté leur consommation d'alcool juste en ayant pris connaissance du règlement interne de la structure où on disait il ne faut pas en amener, etc. etc. Cannabis, 40% d'usage nocif, seuls 37% ne consomment pas. Faible connaissance des impacts psychiques et cognitifs, 62% souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation. Opiacés, 41% d'expérimentateurs d'héroïne, 30% ont une consommation actuelle. Les TSO, seuls 15% sont sous TSO prescrit et un patient est sous TSO non prescrit, à la rue. Deux ont un usage actuel de cocaïne, deux d'ecstasy et 18% détournent des benzos. Pour des patients précaires, avec un suivi psychiatrique et n'ayant pas initié une prise en soins addictologique. Et pour 44% d'entre eux, avec ces consommations, il y a des antécédents personnels de passage à l'acte suicidaire. Sachant que les trois facteurs à risque majeurs de récidive de passage à l'acte suicidaire, c'est les antécédents personnels, c'est les antécédents familiaux et c'est l'usage de substances psychoactives. Donc, il y a un boulot dans notre discipline de sensibilisation et d'articulation de certaines pratiques. Près de 50% ne connaissent pas leur statut sérologique, ni de VHC, ni de VHB. Une méconnaissance complète des conduites à risque, des usages à risque et de ce que ça peut représenter. Deux tiers acceptent la réalisation d'un bilan et 39% des non-vaccinés souhaitent se faire vacciner. Et 10% de la population sont séropositifs au VHC. Il y avait 3 patients. Depuis, on en a traité un. Il y en a un deuxième qui est en cours et le troisième est en bilan. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de travailler de manière cohérente, chacun dans son coin. Il faut travailler de manière cohérente, de manière articulée et coordonnée. Le choix des mots est un choix important. Je le dis souvent, modifier nos mots, c'est modifier nos pratiques. On doit articuler nos soins. C'est aujourd'hui notre première mission. Ce ne sont pas forcément des patients qui sont à risque, ce sont des patients qui ont des besoins et des manques. Et notre boulot est de leur proposer une offre de soins qui s'adapte à leurs besoins et à leurs manques. Et soudainement, ces patients difficiles deviennent des patients accessibles. Juste pour vous dire, peut-être que certains l'ont déjà vu, mais c'est un travail qui montre que... Alors, est-ce qu'on l'a en termes de bénéfices de qualité de vie ? Parce que je veux faire vite.
C'était celle-là. C'est celle-là, non ?
Ouais. Ça, c'est l'évolution des scores psychiques et physiques chez des patients qui sont traités pour une hépatite C chronique, que ce soit des populations psy- en rouge, et que ce soit pour les populations souffrant de troubles psychiatriques, en bleu les troubles dépressifs ou anxieux, en orange les troubles psychotiques, et en vert les troubles bipolaires de l'humeur. Quelle que soit la population, sauf peut-être les patients souffrant de troubles bipolaires de l'humeur, pour des raisons que l'on pourra évoquer, mais l'interféron a des effets dépressogènes et maniocogènes majeurs, même pour les patients psychiatriques, traiter une hépatite C améliore la qualité de vie dans ses scores physiques et psychiques. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les traiter. Les facteurs à risque de faire des troubles psychiatriques sous traitement par interféron, juste pour vous donner... Voilà, il n'y a pas de choses tout à fait notables. Les fortes posologies d'interféron, le sexe féminin, les troubles psychiatriques actuels. Est-ce qu'aujourd'hui les antiprotéases vont aggraver cela ? Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas ce que ça va donner, je reste en observation. Moi, on me disait que ça ne faisait rien, je me suis juste déjà rendu compte que les interactions avec le séroplex, qui est un traitement facilement prescrit, et la méthadone peut poser souci, hein, et certaines benzos. Donc il faut être attentif à ça et voir ce que ça va donner. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les... Donc vous savez qu'il existe des recommandations de l'AFSAPS, hein, sur la bonne prise en charge psychiatrique des patients, la bonne prise en charge psychiatrique, ouais, des patients traités par interféron. Je ne peux que vous la recommander. Elle est globalement, on va dire, pas mal foutue et globalement claire. Alors, tout ça pour dire quoi ? Je pense qu'il est très important de systématiser nos systèmes de soins. Systématiser, ce n'est pas les rendre systématiques. Ça veut dire que l'on doit avoir à proximité de soi... De quoi avoir un avis neuropsycho, de quoi avoir un avis psychiatrique, de quoi avoir un avis hépato, de quoi. Voilà, telle façon à ce que ce patient puisse bénéficier de l'ensemble de l'offre de soins qui pourrait lui être nécessaire. Il faut qu'en même temps de ça, on arrive à systématiser nos bilans. À partir du moment où la proposition d'un dépistage VIH doit être systématique, il n'y a pas de raison de ne pas y assister, de ne pas y proposer les autres. Et on se doit aussi, chacun où l'on est dans nos missions et nos rôles, de proposer ce qu'on appelle des pratiques de soins intégrés. Les pratiques de soins intégrés, ce n'est pas tout faire les uns après les autres, c'est arriver à faire le plus en même temps de manière cohérente. C'est pas je fais d'abord la dicto et je fais ensuite la psy et je fais ensuite l'hépato. C'est parce qu'on va le traiter pour l'hépatite C, parce qu'il est d'accord pour traiter l'hépatite C, parce qu'on va lui faire son biopsie, sa biopsie ou qu'on sait qu'il va y aller, on va pas avoir réfléchir son alcool et initier une première consultation de psychiatrie parce que ça a des effets secondaires psychiatriques par interféron. Ça, c'est des pratiques de soins intégrées. Il ne faut pas qu'elles soient séquentielles, les unes après les autres. Il ne faut pas qu'elles soient mises en parallèle et de manière cohérente. Il faut que chacune de ces problématiques soit un levier l'une pour l'autre, avec des gens qui bossent ensemble. Je pense que ça doit être dans nos ambitions, surtout dans ces périodes de SROSS, plans gouvernementaux, projet CEPOM, projet d'établissement. On doit chacun à notre place s'attacher à ce que cela soit possible dans l'espace de proximité où l'on intervient. C'est compliqué, mais je pense que c'est un engagement essentiel. De la même façon, il faut que les équipes de soins de psychiatrie soient capables de gérer les traitements antiviraux et les traitements antirétroviraux. Moi, les 3-4 patients dont je vous parle, l'injection interféron et la surveillance de l'injection interféron, elle est faite dans les hôpitaux de jour, psychiatriques. Ce n'est pas la peine d'aller envoyer un patient 6 fois dans une journée à des endroits différents à 15 bornes. Ça n'a pas de sens. Et si déjà on est face à un patient psychiatrique qui doit être traité, on s'en charge. Développer bien sûr la réduction des risques et l'éducation thérapeutique en milieu psychiatrique, hein, vous l'avez vu, il y a de quoi faire. Hein, expliquer aux patients à quoi on doit faire attention et en quoi ces conduites peuvent être dangereuses pour lui, c'est important. Et donc systématiser comme ça un travail en réseau de soins cohérent et coordonné me paraît super important. On a créé il y a longtemps, et on a quelques anciennes premières promotions qui sont encore présentes avec nous à l'époque, un DU. Maintenant, ce DU est devenu 5 ans après un DIU, avec le service de Michel Reynaud, le service de François Paille et de Strasbourg, donc entre Paris, Strasbourg et Nancy, avec l'aide de Pascal, qui s'appelle Addiction, Psychiatrie, VIH et Hépatite Virale, où on travaille ces pratiques de soins intégrés. Vous êtes bien sûr les bienvenus, les inscriptions sont en cours. Et ben voilà ce que je voulais vous dire pour la psychiatrie et les pratiques de soins intégrés.
Merci Jean-Philippe. Effectivement, donc tu nous as rappelé, alors on est stupéfait parce que quand on voit les résultats que tu as à Erstein, un endroit qui est particulièrement sensibilisé, ça, on se fait peur en imaginant les résultats des endroits où on n'est pas sensibilisé. Donc on se dit qu'il y a une grosse partie de l'iceberg qui est encore sous l'eau et l'arrivée des nouvelles séquences thérapeutiques doit nous amener à... Il n'y a rien de grave à ne pas dépister quand on n'a pas de traitement, mais quand il y a des possibilités thérapeutiques, il y a une obligation morale à dépister pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux soins. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on lâche Jean-Philippe pour aller prendre son avion?
À titre d'information, sur l'ARS Alsace, l'urgence du directeur général pour la psychiatrie, c'était d'articuler la psychiatrie avec la dictologie. Après, ça dépend de son directeur général de l'ARS, mais pour lui, ça a été la première mission aujourd'hui pour la psychiatrie sur la région Alsace, c'est de l'articuler convenablement avec les pratiques addictos, de telle façon à ce qu'on arrive à bosser ensemble.
Si vous pouvez vous présenter.
C'est un des souhaits de certains laboratoires, notamment dans le cadre de la sortie des antiprotéases, de s'inspirer de ce qui peut se faire en cancérologie. J'en sais trop rien. Moi, je dirais plutôt oui, mais je n'en sais trop rien.
Alors, pour répondre en contre-pied, les UTEP, les unités transversales d'éducation pour le patient, qui sont budgétées par les ARS. Quand on fait un programme d'éducation thérapeutique dans une UTEP, on doit faire, comme en cancérologie, un PPS, un programme personnalisé de soins. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit être multi-intervenant, il faut au moins 3 personnes, et on doit définir un programme avec une durée, des actions, qui va faire quoi, comment on évalue, etc. Et je crois effectivement qu'on est, maintenant, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, toute maladie chronique qu'on va traiter, doit y avoir du multidisciplinaire, RCP, ou on les appelle autrement, ou staff, voilà, mais tracé, qui a pris les décisions, qui doit faire quoi, qui évalue quoi, comment. Et je pense que peut-être pas en première ligne, mais il y a tout l'enjeu des patients compliqués, comorbides, alors hépatite C, trouble psy, voilà. Et je pense que ceux-là, ils ont intérêt à ce qu'on se mette à plusieurs autour de la table pour les évaluer, probablement dans l'avenir. Moi, j'avais une question, Jean-Philippe, avant que tu te sauves. On a bossé ensemble donc largement sur l'augmentation dit 30 à 40% de troubles sous interféron ribavirine. Moi, je suis un peu inquiet avec l'arrivée des antiprotéases. Aujourd'hui, on nous parle des nouveaux effets secondaires qui nous font peur, qui font peur au milieu hépatologique, que sont les rashes cutanées et l'aggravation des anémies. Et comme il apparaîtrait, je mets bien ça comme toi tu l'as fait, entre parenthèses, pas d'augmentation du syndrome dépressif, on a l'impression que c'est acquis maintenant, 30 à 40% de dépressifs, et comme si on aurait l'habitude de le gérer et que c'était quelque chose d'acquis. Est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est acquis et qu'on sait faire ?
De toute façon, déjà 30 à 40% de troubles psychiques réels et de potentielle dépression, épisode maniaque ou épisode mixte, c'est juste déjà énorme. C'est juste déjà énorme. C'est-à-dire que il faut que ce soit sur les deux médicaments ou les trois, en soi, déjà, ce qui se passait sur les deux, c'est déjà énorme. Et aujourd'hui, je pense que chaque pôle de référence en France devrait être un pôle de référence sur l'ensemble des pratiques et avoir effectivement son addictologue de référence, son psychiatre de référence, son dermato de référence, qui puisse, sur la région et l'espace de proximité, former ses collègues et être un lien et un espace ressource pour tous les collègues. Je pense qu'aujourd'hui, les pôles de référence doivent être des pôles de référence au sens large. Charge à eux, et éventuellement dans le cadre de financement, d'avoir ces compétences ressources et qu'on travaille en espace de proximité pour que l'ensemble des patients usagers, peu importe où ils habitent, n'aient pas une perte de chance sous prétexte d'habiter dans un lieu ou dans un autre. Voilà. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on doit adapter notre offre de soins en termes de proximité à chacun, et je reste intimement persuadé que ça fait partie de nos obligations aujourd'hui dans nos missions institutionnelles à chaque fois qu'on doit négocier quelque chose.
Alors, on a passé 8 ans à nous dire que les antiprotéases arrivaient dans 2 ans. Ça fait 8 ans qu'on le dit. Donc, maintenant, on les a. On commence à nous dire aujourd'hui, vous inquiétez pas, dans 2 ans, vous aurez des quadrithérapies sans interféron et vous réglerez le problème de l'interféron. C'est demain, c'est après-demain. Nous dit-on aujourd'hui, et on voit les premiers essais se mettre en place. Est-ce que ton attitude de psychiatre serait de valider en disant, dès que vous avez des patients un peu compliqués, attendez, il y aura les quadrithérapies dans 2 ans sans interféron, ce sera plus facile?
Je pense qu'on n'a pas à imposer, d'abord on n'est pas devin, ensuite si quelqu'un veut être traité et qu'il n'y a pas de contre, d'abord il n'y a jamais de contre-indication à un traitement, notre boulot c'est de tout faire pour que ces contre-indications n'en soient plus et amener quelqu'un à un soin. Si quelqu'un veut être traité et qu'il estime que pour lui c'est le moment, je pense que notre boulot est de mettre autour ce qui est nécessaire pour l'y accompagner. Donc dire à quelqu'un je vous traite que dans 4 ans parce que, bon moi je ne suis pas...
C'est des naïfs, on les voit pas venir.
C'est les improbables. C'est ce que, le diaporama est à votre disposition, mais on a aussi montré que l'impact psychique de l'effet du traitement antiviral pouvait être plus important chez quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que l'effet psy. C'est-à-dire se prendre un effet secondaire psy sans avoir eu la connaissance de ce que c'était avant. Et effectivement, peut-être que les patients qui ont l'habitude de ces troubles ont une compétence à le gérer et à le vivre qui est globalement différente. Ce qui fait que, effectivement, je pense que l'information, l'éducation et la systématisation de la rencontre devraient exister pour l'ensemble. Et que dans l'urgence, on ait le système qui permette d'accéder de manière urgente à la vie qu'il faut. D'où l'importance de pas systématique, mais de systématiser.
Une dernière question.
Oui, bonjour, je suis Thomas Dussouchet, pharmacien coordinateur à l'association Gaïa à Paris, qui gère un XAPA, le bisméthadone et un Carud. Pour rebondir sur ce que vous disiez, quand vous disiez qu'il faut traiter les gens où qu'ils habitent, encore faut-il qu'ils habitent quelque part, parce que je ne sais pas si vous avez une forte population de SDF, mais nous on est vraiment confrontés à ça, à cette situation d'usagers de drogue qui sont à la rue, qui n'ont aucun hébergement et quels que soient les efforts qu'on fait pour dépister les personnes, pour faciliter l'accès au traitement, aux consultations hépato, on est systématiquement quasiment confronté à la situation de l'hébergement et à des personnes dont on connaît le statut sérologique, à qui on a fait un fibroscan, avec qui on a fait les démarches CMU, AME. Et voilà, on se retrouve bloqué face à cette situation de l'hébergement et on a des personnes... pour lesquels finalement on ne peut rien faire. Et je pense qu'il y a vraiment un gros dossier, enfin en tout cas sur la scène parisienne là-dessus, sur ouvrir plus de places d'hébergement pour ces personnes qui sont en demande de traitement. Et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout entendu parler en fait, depuis trois jours là. C'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a énormément d'innovations, de nouvelles choses qui sont faites. Mais cette question qui, pour nous, en tout cas pour notre pratique, est centrale, je ne l'ai pas entendu aborder.
Je vous rejoins complètement. L'exemple de la maison relais psychiatrique des usagers qui viennent de la rue et qui sont déjà pris en charge par des équipes, et quand on voit la situation qui est la leur, une fois leur admission en maison relais, quand on voit effectivement par rapport à la problématique psychiatrique, et addicto et hépatite qui sont les leurs, on imagine les mêmes usagers qui sont pas encore et qui n'ont pas encore accédé à ça, dans quelle situation ça peut être. Mais on se rend compte aussi que, comme vous le dites, l'accès à une solution, l'accès à un logement, l'accès à un endroit où on se pose et où tous les efforts sociaux peuvent prendre du sens en mettant en place quelque chose, est essentiel. Donc c'est vrai que cette maison relais est un exemple parmi d'autres, mais il est évident qu'à un moment donné, on ne peut pas traiter des gens qui sont dans la rue, quoi. Ou alors de manière, on va dire, super rigoureuse et dans quelque chose qui est devenu jouable sur le terrain. Mais quand on voit, on a pu voir les patients et leur profil qu'on a admis en maison relais, on a une petite idée de ce qui se passe dans la rue et des difficultés qui peuvent être les vôtres. Et l'importance de ce que représente effectivement toute cette plateforme comme ça de précarité sociale, où les partenaires travaillent entre eux et où arrive, quand on a la chance de poser quelqu'un à un endroit, à mettre quelque chose en place vite. Mais d'où la nécessité toujours de systématiser les choses. Quand c'est là et qu'il faut, il faut qu'on ait.
Il faut qu'on continue d'inventer des appartements thérapeutiques. Il y a eu dans les CHRS la découverte des lits halte soins santé, ces espèces de moyens séjours intermédiaires pour patients précaires. Il faut les développer. Et en ce moment, enfin là je remets ma casquette d'SOS Hépatite, on fait levier sur les sociétés savantes que sont la Fédération des pôles et des réseaux et la FEF pour conjointement dénoncer le manque d'espace pour traiter les patients. On a des possibilités thérapeutiques dans l'hépatite C, il nous faut juste ces espaces pour poser les gens, leur mettre un cadre de vie momentané. Ce n'est pas en plus à long terme, c'est un an le temps de se poser. Donc on va essayer de faire pression pour que ça puisse bouger. Merci Jean-Philippe d'être venu.
Vous pouvez en excuser, mais...